Chapitre 9.
Eh bien, lieutenant, et ce sondage?
Je crois, monsieur, que l'opération va prendre fin,
répond le lieutenant Bronsfield au capitaine Bloomsbury. Le Susquehanna, un navire de la marine des États-Unis, s'occupe de faire des sondages dans l'océan Pacifique, à 100 lieues environ de la côte américaine. C'est la fin d'une dure journée de travail et la lune se lève déjà à l'horizon. Après le départ du capitaine Bloomsbury, le lieutenant Bronsfield va rejoindre quelques officiers sur le pont. Lorsque la lune apparaît, il pense à leurs trois amis.
Ils sont partis depuis 10 jours, dit le lieutenant. Que sont-ils devenus?
Ils sont arrivés, mon lieutenant, s'écrie un jeune élève officier. Et ils font ce que fait tout voyageur dans un pays nouveau. Ils se promènent.
J'en suis certain, puisque vous le dites, mon jeune ami, répond le lieutenant en souriant.
La conversation entre les officiers continue jusqu'à environ 1 heure du matin. Les hommes décident alors de retourner dans leur cabine. Au moment où ils vont se séparer, leur attention est attirée par un sifflement lointain et tout à fait inattendu. Ils pensent d'abord que ce sifflement est produit par une fuite de vapeur, mais levant la tête, ils constatent que ce bruit vient du ciel. C'est alors que ce sifflement devient très fort, et soudain, à leur grande frayeur, un bolide énorme, enflammé par la rapidité de sa course, apparaît dans le ciel. Plus la masse se rapproche, plus elle grandit, et elle finit par s'abattre, avec le bruit du tonnerre, sur le mât avant du navire qu'elle casse d'un coup. Puis elle disparaît dans les eaux. Heureusement pour lui, le Susquehanna n'a pas plus de dégâts. À cet instant, le capitaine apparaît sur le pont, à moitié nu, et demande à ses officiers
« Que s'est-il passé, messieurs ?»
Alors l'élève officier s'écrie
« Commandant, ce sont eux qui reviennent !»
L'émotion est grande à bord du navire. Officiers et marins oublient le terrible danger qu'ils viennent de courir. Ils ne pensent plus qu'aux trois aventuriers de l'espace.
« Ils sont morts !» dit l'un.
« Ils vivent !» dit l'autre. « Vivants ou morts !» dit un autre. « Il faut les sortir de là !»
Cependant, le capitaine a réuni ses officiers. Il faut agir rapidement et repêcher le projectile. Opération difficile, mais pas impossible. Le navire manque du matériel nécessaire qui doit être à la fois puissant et précis. On décide donc de le conduire au port le plus proche et d'avertir le Gun Club de la chute du boulet. 2 jours après, le Susquehanna arrive au port de San Francisco. Depuis le départ des trois voyageurs, le secrétaire du Gun Club, J.T. Maston, se trouve à l'observatoire qui a été installé dans les montagnes rocheuses. Pendant la nuit du 14 au 15 décembre, J.T. Maston et le directeur de l'observatoire sont en train de scruter l'espace quand, à 10 heures du soir, on leur apporte un télégramme. Il a été envoyé par le commandant du Susquehanna. Le directeur de l'observatoire l'ouvre, lit et pousse un cri. « Hein ?» dit J.T. Maston. « Le boulet ? Eh bien, il est retombé sur la Terre. Et où est-il tombé ? » demande Maston. « Dans le Pacifique. Partons !» Un quart d'heure après, les deux hommes quittent l'observatoire et 2 jours plus tard, ils arrivent à San Francisco en même temps que leurs amis du Gun Club. Tous les membres du Gun Club se réunissent aussitôt pour prendre une décision. « Que faire ? » demande-t-on. « Repêcher le boulet, » répond J.T. Maston, « et le plus tôt possible. » L'endroit où le projectile est tombé dans l'eau est exactement connu. Les instruments pour le saisir et le ramener à la surface sont enfin prêts. J.T. Maston, et les autres membres du Gun Club sont à bord du Susquehanna. Le 21 décembre, à 4 du soir, le navire quitte le port pour se diriger vers l'endroit où le boulet est tombé dans les eaux. Le 23 décembre, il atteint son but.
Enfin, s'écrie J.T. Maston. Nous allons commencer ? Demande le capitaine Blomsberry. Sans perdre une seconde, répond J.T. Maston.
Toutes les précautions sont prises pour empêcher le navire de bouger. Avant de chercher à saisir le projectile, on décide de voir d'abord où il est. Les appareils sous-marins destinés à cette recherche reçoivent alors l'air qui sera nécessaire à l'opération. La descente commence à 1h25 du matin. Elle est rapide. À 2h17, J.T. Maston, ses compagnons et les officiers qui ont pris place dans l'appareil ont atteint le fond du Pacifique. Ils explorent les fonds sous-marins mais ne trouvent rien.
Mais où sont-ils ? Où sont-ils ? S'écrie J.T. Maston.
Et le pauvre homme appelle à grands cris Nicholl Barbicane et Michel Ardan. La recherche continue. Mais il faut bientôt remonter car l'appareil va manquer d'air. Le lendemain, 24 décembre, on recommence les recherches. Mais on ne trouve toujours rien. La journée du 25 n'amène aucun résultat. Celle du 26 non plus. Le 28, après 2 autres jours de recherche, tout espoir est perdu. Il faut renoncer à chercher le boulet. Le 29 décembre, à 9h du matin, le Susquehanna reprend sa route vers le port de San Francisco. Il est 10h du matin. Le navire s'est éloigné de l'endroit où est tombé le boulet quand un marin qui observe la mer crie tout à coup
« Un objet à la mer !»
Le commandant Blomsberry, J.T. Maston et les autres membres du Gun Club montent sur le pont et examinent cet objet qui flotte sans but sur la mer. Le navire s'approche de l'objet sur lequel est dressé un drapeau. C'est le drapeau américain. On entend alors un véritable hurlement. C'est le brave J.T. Maston qui vient de tomber comme une masse. On se précipite vers lui. On le relève. Il reprend conscience et dit
« Ah, nous sommes de véritables imbéciles. Qu'y a-t-il » demande-t-on. « Ce qu'il y a, imbécile !»
hurle le secrétaire.
« C'est que le boulet ne devait pas couler, mais flotter. Voilà pourquoi nous ne le trouvions pas. Mais le voici, c'est bien lui. »
On met rapidement des barques à la mer. J.T. Maston monte aussitôt dans l'une d'elles. On s'avance vers le projectile. Que contient-il ? Des vivants ou des morts ? Des vivants, bien sûr, puisqu'ils ont mis un drapeau. La barque de J.T. Maston accoste près du boulet. À cet instant, on entend une voix joyeuse et claire, la voix de Michel Ardan qui s'écrie « Blanc partout !» Barbicane, « Blanc partout !» Barbicane, Michel Ardan et Nicholl jouent au domino.